Tout est plus détaillé, plus lumineux, plus coloré. Lucas ne reconnaît pas tout de suite, et pourtant si. C'est bien ici, chez lui. C'est le salon. C'est le piano de Roxane. Sauf qu'ils ne se ressemblent pas complètement. C'est comme s'il avait plus de lignes, plus de détails, plus de couleurs aussi. Ce piano qui était marron, qui semblait d'un marron banal, sans le moindre relief. Un piano d'étude au son clair et au toucher précis, mais dont la couleur n'a pas d'importance. Piano pas laqué, marron tout venant. Là non, là ce n'est pas ça, ce n'est plus ça. Le marron est irisé, le marron est riche, comme nourri de mille teintes, de variations, comme si ce n'était pas marron, mais une forme de multiplication du marron. Les couleurs sont infinies et sublimes, pas seulement le piano, mais toute la pièce. C'est étrange comme c'est beau, c'est éblouissant. C'est le mot qui convient le mieux, peut-être. C'est éblouissant. C'est magnifique. Lucas avance, stupéfait, dans cet endroit qu'il connaît si bien pourtant et qui est si différent.
Et puis, avant même qu'elle entre dans la pièce, Lucas sent l'odeur de Roxane. Les odeurs. C'est bouleversant. Il y a l'odeur des cheveux, cette odeur un peu musquée, un peu animale. Et puis son odeur corporelle à elle, poivrée, douce, intense. Et le déodorant qu'elle met par-dessus à la fleur d'oranger. Et puis son souffle, la légère odeur menthe et prêle de son haleine. Et même ses habits, les fibres de tissu sentent le coton et la lessive, bien sûr, cette lessive qu'ils font eux-mêmes avec des copeaux de savon de Marseille. Et Lucas sent cette odeur un peu âcre du savon à plusieurs mètres de distance qui se rapproche. Roxane s'avance lentement dans le salon. Elle va s'installer sur le canapé. Se met en boule, boule de tristesse, boule d'effondrement, hoquet de sanglots, presque silencieux. Lucas la regarde. Et il sent le sel, l'eau salée, il perçoit jusqu'à l'odeur des larmes de Roxane. Il s'approche d'elle. Il fait le geste qu'elle avait fait, elle, juste avant l'accident, leur dernier baiser, quand elle avait fourré son nez à elle dans son cou à lui. Là, il fait la même chose. Il avance son nez à lui, dans son cou à elle. Et il chavire. Il sent toutes ces odeurs, jusqu'à l'odeur de son sexe, jusqu'au très léger halo de transpiration autour de ses pieds. C'est si bon de sentir si profondément toutes ces odeurs, toutes elles. Jamais il n'avait senti d'odeur si précisément, senti si précise les odeurs. Elles lui permettent de reconstruire mentalement l'ensemble de l'arche des sens de ce qu'il recevait de Roxane, le goût de ses lèvres, le toucher infiniment doux de sa peau.
Et puis, ils vont dîner tous les trois. Dîner tous les trois. Roxane répète cette phrase à sa fille de 16 ans, en lui disant que jamais elle n'aurait pensé qu'elle aurait à dire cela un jour. Je ne te dis pas que je n'ai jamais imaginé qu'on pourrait se séparer avec ton père, mais dans ce cas-là, c'est vrai que je ne pensais pas à cette idée qu'on se retrouverait à trois, avec vous deux. C'était d'autres questions, d'autres enjeux. En tout cas, jamais je n'avais envisagé qu'il pourrait mourir. Elle dit le mot clairement, avec franchise, avec dureté presque. Et Sophia répond que, elle, si. Que souvent, elle pensait que ses parents allaient mourir, l'un ou l'autre, ou les deux. Et puis elle ajoute, elle parle doucement, peut-être pour que Lorenzo ne les entende pas, mais Lorenzo est allé prendre sa douche, il ne pourrait de toute façon pas les entendre. Elle ajoute, ça n'a tellement rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Tellement rien à voir. Elles se prennent dans les bras, et Lucas est là, à côté d'elle. Et à nouveau, il sent l'odeur salée, fragile, luminescente des larmes de Roxane et aussi de celles de Sophia. Il regarde cette mère et sa fille, sa femme et sa fille, ces deux êtres féminins qui comptent le plus pour lui. Il les regarde et il voit leur peau de manière si précise qu'il pourrait croire qu'il y a un microscope ou une caméra haute définition. Les sillons sont tellement plus nombreux que d'habitude. Ce n'est pas une question d'âge. Bien sûr que la peau de Roxane, cette peau de quasi-quinquagénaire, est plus marquée par le temps que celle de sa fille de 16 ans. Mais surtout, Lucas perçoit l'infinie complexité de la matière des peaux. C'est comme énormément de couches de vie superposées les unes aux autres, toutes plus vivantes que les autres. Il n'aurait jamais imaginé que la peau pouvait représenter tant de choses, une telle accumulation. Tant de vie dans si peu d'épaisseur.
Et puis, Lucas est un peu en retrait, devant la porte d'entrée, sous la pergola. Sa femme et ses deux enfants sont au milieu du jardin, au beau milieu, dans cette zone où Lucas ne voulait jamais qu'on plante quelque chose, trop visible, trop central, coupant le jardin en deux, en quatre petites zones au lieu d'une seule grande. Mais c'est ce que veut Roxane, justement, couper leur jardin, le démanteler, le dépecer, qu'il ne reste rien de la tranquillité, de la sérénité d'avant. C'est Lorenzo qui fait le trou. Lorenzo qui a besoin de s'énerver contre le monde, de frapper violemment, froidement, méchamment le sol avec la pioche de son père. La terre remuée sent tellement fort que Lucas, à 6 mètres de là, est transporté dans ce monde d'humus, cet univers de vie souterraine et tous les signaux qu'envoient les cailloux, les herbes arrachées, les vers de terre, les minuscules morceaux de bois ou de feuilles qui se décomposent petit à petit. Ils plantent l'olivier, ils arrosent. Et les odeurs, bien sûr, de l'arbre qui reprend vie, qui prend racine, qui marque sa présence dans le sol par des échanges souterrains et par des signaux envoyés par toutes ses feuilles, et que Lucas reçoit dans leur entièreté. Roxane, Sofia et Lorenzo se taisent, debout devant l'olivier, l'arbre du souvenir de leur père, leur mari. Ils sont serrés les uns contre les autres, boules d'amour malheureuses. À ce moment-là, un gros nuage se place devant le soleil et Roxane dit, mécaniquement, sans même réfléchir, comme s'il fallait dire à voix haute cette phrase, pourtant pas très utile, cette phrase qui n'apporte pas grand-chose, qui n'aide pas surtout. Nous voilà dans l'ombre. Surprise de Lucas. Il ne voit que de la lumière. Bien sûr que le nuage masque les rayons du soleil, mais tout est si lumineux. Et les trois personnes qui sont là rayonnent pour lui. La douce intelligence de Roxane, la puissante profondeur de Sofia, la révoltée grandeur de Lorenzo, tout est si lumineux, tout l'illumine entièrement. Lucas se dit « Vous êtes dans l'ombre et je vous vois dans cette lumière. »
Et puis, c'est l'odeur du café, les odeurs du café. D'abord le marc d'hier, humide encore, compact, tassé, saveurs un peu repoussantes, envahissantes, presque nauséeuses, mais qui portent en elles le souvenir de l'autre, l'autre café, le moulu, celui de la boîte en métal déglinguée avec le couvercle toujours un peu difficile à retirer. C'était le petit rituel de Lucas, faire ce qu'il appelait le café de 11 heures, pour se monter un café au bureau, en proposer toujours une tasse à Roxane qui toujours disait non, et aussi à ses élèves, à elle, qui parfois disaient oui. Ce geste simple, dévisser la cafetière italienne, jeter le vieux marc, rincer, remplir d'eau fraîche, et enfin ouvrir la boîte en métal avec le café moulu, le café nouveau. Voilà que maintenant, Roxane fait ce geste, a repris ce rituel. Tous les matins à 11 heures, mécaniquement, elle se fait un café. Lucas, qui était dans le jardin, a senti l'odeur. Attiré par l'odeur, il s'approche et regarde les mains de Roxane qui prennent la petite cuillère en plastique rouge. Il se souvient de la matière très lisse, très légère de cette cuillère ancienne. Roxane dépose les grains ultra fins, aériens, et Lucas observe les détails de chaque grain, perçoit à l'odeur le mélange des différents cafés. Mélange bio était une expression qui ne voulait pas dire grand-chose. Et soudain, il comprend et isole chacun de ses cafés mélangés. Il repère les différentes saveurs qui se superposent. Et l'eau, bien sûr, l'odeur chlorée de l'eau et le métal de la cafetière et le gaz quand Roxane l'allume. La profondeur de l'odeur du gaz, les couches qui là aussi se superposent, le réservoir à Fos-sur-Mer, le pipeline et la grande poche quelque part là-bas, près de Bakou sans doute, tous ces mondes que Lucas ne faisait qu'effleurer et qui sont si présents maintenant. Pas pour Roxane. Lucas doit faire un effort pour se représenter ce que Roxane sent. Pas grand-chose. Bien sûr, le café usé, âcre, qu'elle a déposé dans leur pot à compost, et aussi le gaz au moment de l'allumage. Mais odeurs uniformes, plates, simples, alors que c'est tellement riche. Même l'eau du réservoir qui se transforme peu à peu en vapeur, il arrive à en percevoir le changement par l'odeur. Crachotement. Bruit d'une complexité multiple, parce que chaque minuscule atome de café liquide projette dans le réservoir du haut qui se remplit et modifie à mesure le son global du café qui va bouillir si Roxane ne coupe pas le gaz à temps. Elle coupe le gaz. Attrape la tasse fétiche de Lucas, celle qu'il emmenait tous les matins dans son bureau. Mug banal, mais qui évidemment... par sa présence permanente, par sa régularité affirmée, était devenue pour lui une fidèle amie, un point de repère rassurant. Roxane en serre la tasse de ses deux mains et à nouveau l'odeur de ses larmes, légère parce que légère, en retrait par rapport au café qui occupe tant d'espace, mais elles sont là.
On s'habitue, pas à l'absence. Eux trois ne s'y habituent pas, ne s'y habitueront jamais vraiment. Mais lui, apercevoir le monde avec plus de couleurs, plus de détails, plus d'intensité, à l'entendre avec plus de complexité, plus de profondeur. Maintenant, Lucas ne remarque plus vraiment que c'est ainsi. Et il a du mal à se souvenir du monde d'avant, le monde moins riche, moins démultiplié. Le monde normal, le monde vivant, leur monde à eux. Mais dorénavant, Lucas ne peut plus rien sentir. Plus rien de Roxane, plus rien de Sofia, plus rien de Lorenzo. Il ne les sentira plus jamais. Il a franchi cette étape, perdu cela aussi. Le goût, si vite, le toucher avant même de les avoir retrouvés. Maintenant les odeurs. Eux ont tout perdu de lui, n'ont plus rien à partager. Lui, il lui reste beaucoup encore. Les voir et les entendre, ce n'est pas rien, mais le voilà un peu plus loin d'eux. Ils ont perdu une part de leur matérialité, de leur corporalité. Il a fait un pas encore qui l'éloigne. Alors, il écoute. Il écoute Roxane au piano, qui joue la 11e variation Goldberg. Variation minuscule, c'est une des plus courtes, des plus obsessionnelles aussi. Ça tape, ça frappe, ça se répète, ça ne semble ni monter ni descendre, comme une sorte de plat qui vibre à fond pourtant. Ça avance, mais comme des ondes quasiment identiques, comme des segments qui sont toujours les mêmes et toujours un peu différents, sans qu'ils aient ni début ni fin. Ils se succèdent en se superposant. Roxane joue la variation en boucle, les deux pages posées devant elle. Quand elle arrive à la fin, elle reprend tout de suite au début, ce qui rajoute au côté répétitif, cercle infini de quelques notes répétées compulsivement. Roxane accélère un peu à chaque fois. Arrive un moment où ce ne sont presque plus des notes distinctes, mais une sorte de grondement, de vague qui avance et qui happe tout, dans laquelle Lucas n'arrive plus à entendre ce qui est main droite ou main gauche, même en regardant. C'est un enchevêtrement de structures multiples. C'est tant de monde, en à peine plus d'une minute, répété plus de 50 fois. Ça structure les pensées de Lucas. Et il se dit que ça doit faire pareil à Roxane, l'aider à organiser le chaos du monde qui est le sien maintenant. Si Bach a réussi à faire si clair, si net. Si elle arrive à le jouer si précis, si vite, alors, quand même, c'est que quelque chose tient. Quelque chose.
Et puis, Lorenzo se met à parler de la nuque de son père. C'est lui qui se souvient le mieux combien elle était solide, parce qu'il n'y a même pas 10 ans, il était encore installé dessus, bien posé tout en haut de Lucas, les deux petites jambes qui pendaient de chaque côté. Et ils rigolaient tous les deux quand Lorenzo faisait tap-tap sur l'épaule du côté où il voulait tourner. Et Sophia aussi se souvient quand elle était sur les épaules de son père, la force qu'il avait pour me faire décoller du sol, me faire voler en l'air et me déposer pile au bon endroit. Ready to fly, tu te souviens, il le disait aussi avec toi, ce vieux jeu comme s'il était un pilote de ligne américain des années 50. Et on aimait, nous, on aimait tellement ça, avancer si haut, si fier, si sûr d'être protégé des gros chiens relous et des orties ou des ronces. C'était notre papa, si fort. Et l'autre connard, il l'a cassé en 1000 morceaux. Roxane ne dit rien. Elle reste plongée dans ses pensées. Lucas imagine qu'elle pense, elle aussi, à sa nuque. Lui se souvient de ses mains fines qu'elle aimait croiser derrière lui quand elle le chevauchait. Les voilà tristes, tous les trois. Il aurait voulu qu'il s'arrête au bon souvenir. Il aimerait que Roxane fasse ça avec les enfants, qu'il parle des bons souvenirs, des souvenirs que les trois partagent pour beaucoup, mais pas tous. D'où l'intérêt de les dire, pour s'assurer que rien n'est oublié. Et même les repartager, ça fait du bien de se souvenir de lui vivant, de 4 vivants ensemble. Lui, oui, a tant de bons souvenirs.
Et puis, ce matin, Roxane a rendez-vous avec sa psy. Avant de démarrer, elle a pris le temps de connecter son téléphone en Bluetooth. Elle a mis une chanson que Lucas aimait beaucoup. Une chanson qu'il écoutait souvent au travail, quand il se retrouvait bloqué dans des lignes de code, à essayer de les déminer, de les assouplir, de leur faire dire ce qu'il voulait qu'elles disent. Les lignes de code sont rétives, elles t'échappent, tu crois qu'elles disent ceci, et en réalité elles disent cela, tout autre chose. Parfois, il mettait cette chanson en boucle, 2 clics sur son logiciel pour qu'elle se répète à l'infini. Et Roxane se moquait doucement, mais fermement, de cette variétoche un peu facile, un peu cruche. C'est sûr que quand tu fréquentes tous les matins Jean-Sébastien Bach ou Franz Schubert, tu as du mal à prendre au sérieux Véronique Sanson. Mais pour Lucas, c'était possible. C'était les deux faces d'une même médaille, celle de la croyance dans le fait que la musique peut te faire pleurer ou te donner confiance dans la vie, dans la beauté. Ça marche pour la jeune fille et la mort comme pour une nuit sur son épaule. Là, la chanson que met Roxane s'appelle « Toute une vie sans te voir ». Elle commence comme ça.
Il est parti comme il était venu, sans un mot, avec un sourire au coin de ses lèvres, et moi... Je rêve encore de lui, toutes les nuits. Juste ses pas sur le tapis carré, dans la nuit. C'est ce qu'il m'envoie dans l'obscurité, sa voix que j'entends dans mon rêve, triste et belle. Mais ce que je crains, c'est de passer toute une vie sans te voir.
C'est une chanson construite sur un départ, au sens de la rupture. Une absence à cause d'un choix d'être ailleurs, de ne plus être là avec l'autre. Sauf que bien sûr, maintenant, le sens est tellement différent pour Roxane. Ce n'est pas qu'elle le craint, c'est qu'elle le vit. Elle va vivre toute sa vie sans le voir. Et là, ce n'est plus la possibilité qu'une chanson puisse te donner confiance dans la vie. C'est la certitude qu'elle met des mots articulés sur ce que Roxane ressent au plus profond de son être, qu'elle lui permet de coller une notion claire sur son état, de construire un propos cohérent pour l'ensemble des tristesses qui sont si coagulées qu'elles sont indicibles, inextinguibles. C'est du moins ce que pense Lucas. C'est ce qu'il pense qu'il comprend des larmes qui donnent une sorte d'espace cadré à la peine de Roxane. La voiture est garée. La chanson est finie. Profondeur du bruit de la clé qui coupe le contact, de la portière qui s'ouvre et se referme avec précision, des pas de Roxane sur le sol comme des marques d'un chemin qui hésite mais ne veut pas se perdre pour avancer vers la vie. C'est l'heure du rendez-vous avec la psy, Lucas n'y va pas. Même de là où il est, il considère qu'il doit respecter ce temps qui n'est que pour elle, que pour son intimité, pour son espace de reconstruction. La reconstruction de toute une vie a passé sans le voir.
Et puis, ce soir au dîner, les retrouver tous les trois, Roxane, Sophia, Lorenzo, et les écouter parler de tout, de rien, entendre encore une fois le son de leur voix. Leur voix, la voix de Lorenzo, aiguë presque toujours, parce qu'il n'a pas encore vraiment mué, mais un peu quand même. Et Lucas pourra garder comme trace pour l'après les moments où la voix de son fils devient une belle basse avant de regrimper de quelques octaves sous le coup de la contrariété, de la surprise, du rire aussi parfois. La voix de Sophia, fine mais un peu traînante, une voix d'ado qui n'a pas tellement envie d'articuler comme il le faudrait, une voix claire mais pas complètement posée encore. Là aussi, Lucas devra recombiner avec ce qu'il connaît de la voix mûre que Sophia prend. Par exemple, quand au téléphone elle réserve un créneau pour aller faire du paddle, qu'elle joue à l'adulte, qu'elle montre ce qu'elle sera, une femme sûre d'elle mais drôle quand même, ne se prenant pas au sérieux. Tout cela, pas seulement dans la voix, mais dans tout ce que Lucas sait de sa fille. La voix de Roxane, sa voix d'une profonde douceur et beauté, un peu grave d'ailleurs, grave au sens de la hauteur des notes et pas de la gravité. Une voix légère en étant grave, une voix puissante et subtile. Parfois, en jouant du piano, Roxane chante par-dessus et Lucas adore l'écouter. Mais ça, c'est fini. Depuis l'accident, elle n'a pas rechanté. Le piano, oui, mais jamais elle n'a sorti d'elle ce qui vient d'elle. Besoin d'un élément extérieur, d'un outil en soutien. Les marteaux du piano qui tapent les cordes se mobilisent plus facilement que ses propres cordes vocales. Ce soir, après son dernier cours de piano, après le départ de l'élève, elle a reposé le couvercle un peu lourdement, en soupirant, en fermant les yeux. Et elle est allée préparer le dîner pour les enfants. Et au dîner, Lucas est là, comme tous les soirs. Comme tous les soirs, il n'est pas là. Ils dînent tous les trois. Discussion banale, une forme de vie qui continue. Le collège, le lycée, l'actualité politique et les faits divers et les plats. Et je peux avoir l'eau, s'il te plaît? Et bien sûr, au détour d'une phrase, faire allusion à Lucas. Il n'y a pas un jour où il n'en parle pas. Ce soir, ne pas les regarder, simplement les écouter. Écouter tout ce qu'ils ont à dire et en profiter. Il faut en profiter. Il faut le goûter. Les mots importent moins que les sons, les intonations, chaque petit rebond sonore qu'il pourra prendre, qu'il pourra recevoir, qu'il pourra essayer de protéger dans sa mémoire infinie. Dire au revoir à leur voix et à tout ce qui va avec. Le chant de Roxane, le rire de Sophia, les ans de Lorenzo, tout ce qui m'a tellement nourri, tout ce qui faisait le son de notre vie ensemble. À présent, le silence.
Il regarde Roxane. C'est étrange, bien sûr, de la voir sans l'entendre, mais c'est déjà ça. Ça, déjà. Ce matin, Roxane est toute seule. Les enfants sont à l'école. Elle a mis un disque sur la platine, un CD de Christophe, un de ses derniers disques, « Aimer ce que nous sommes », du titre de cette chanson qu'ils aimaient chanter tous les deux ensemble.
Aimer ce que tu es, aimer ce que je suis, en somme, aimer ce que nous sommes.
Mais ce n'est pas cette chanson que veut écouter Roxane. Lucas l'a très bien compris, l'a très bien imaginé. Elle va à la dernière plage du disque, la numéro 13, celle qui s'appelle Lita. Sur le lecteur CD, l'afficheur montre 13 et le temps de la chanson qui débute, qui va durer 8 minutes. C'est une très longue chanson. Et au bout d'à peu près 3 minutes, Christophe se met à psalmodier sur une musique puissante et triste. Il ne dit presque rien, juste quelques mots.
Oh, je t'aime encore. Oh, je t'aime encore.
Un soir, il y a longtemps, Lorenzo était tout petit. Lucas avait mis la chanson assez fort dans le salon. Les enfants étaient couchés. Et à ce moment-là, un moment très beau, très émouvant, il avait monté le volume. Il avait dit à sa femme, « À mon enterrement, j'aimerais que tu mettes cette chanson. Comme ça, tu te souviendras que je t'aime encore, même si je ne suis plus là. » Ils avaient ri, léger ou souri. C'était tellement abstrait. À l'enterrement, il n'y avait pas eu de musique. Roxane était dans un tel choc, incapable de construire quelque chose d'un peu fort. Ça avait été une cérémonie toute banale, expédiée presque, peu importe. Là, elle écoute la chanson. Elle écoute ses mots. Roxane est installée dans le canapé, pelotonnée comme elle le fait si souvent maintenant depuis. Elle écoute. Elle pleure. Lucas la voit pleurer. Il n'entend pas la chanson. Il n'entend pas ses mots. Il n'entend pas ses propres mots, ceux qu'il a laissés au creux de ce disque, qu'il a laissés à Roxane. Ses mots pour lui dire qu'il l'aime encore, malgré tout, malgré la distance, malgré le vide, malgré la perte. Et les larmes de Roxane lui disent qu'elle le sait, qu'elle l'entend, qu'elle sait qu'il est en train de lui dire cela. Il lui dit qu'il l'aime encore et elle l'entend. Et il la voit.
Et puis, il observe leur vie qui se reconstruit petit à petit. Il sait bien que ce n'est qu'une façade, qu'une apparence de reconstruction. Mais derrière cette façade, il y a quelque chose qui se fabrique tout de même. Derrière le fait que chaque matin, les trois se lèvent, affrontent le présent, acceptent de mettre un pied devant l'autre, derrière cette façade qui pourrait n'être qu'illusion, qui pourrait se lézarder ou même se briser en mille petits morceaux de façade effondrée au sol d'une maison dont le toit menacerait alors à son tour de s'écraser, rompant définitivement l'idée d'un avenir possible. Derrière cette façade-là, parce qu'il les connaît bien, qu'il les ressent bien, il perçoit qu'il progresse, que ces mois qui passent les modifient quelque chose de la tristesse en eux. Il y a cette phrase qu'une vieille amie de la famille qui avait perdu très jeune son petit frère avait dite à Roxane au tout début à propos de la souffrance et du temps qui s'écoule. Ça ne passe pas, ça s'espace. Et Lucas voit cela dans leurs gestes, leurs attitudes, leur silence, leur rire, leurs larmes. Ça ne passe pas, ça s'espace. Et ça s'espacera de plus en plus.
Une vie, c'est presque rien. C'est tant de choses. C'est un chemin.
soir. Et je dirais presque pardon, c'est toujours un peu gênant de prendre cette place-là après quelqu'un qui vient de vous offrir ça. D'abord, du coup, avant de commencer par une question, je vais vous dire merci, je pense, au nom d'entre nous tous. Merci à tous les deux pour la lecture. Et puis ça me permet d'enchaîner sur un compliment qui est sincère, parce qu'en plus il est partagé par le comité de lecture. C'est merci aussi pour ce texte, Raphaël, qui est un texte beau. Alors beau, ça pourrait prêter à de longues digressions. On va s'attarder à deux, trois questions, deux, trois aspects, puisqu'on va parler une petite vingtaine de minutes, parce que voilà, vous avez déjà vécu quelque chose. Ce texte s'appelle « Après ». Vous êtes concentré sur l'après, le prologue. Il y a une scène introductive qui elle-même, effectivement, on comprend pourquoi vous ne la lisez pas dans le même mouvement, parce qu'elle est d'un autre type. On est précipité dans l'événement. Cet événement ordinaire, c'est de l'ordre du fait divers, de ce qui se passe tous les jours, un simple accident, et puis une mort, et puis cet événement qui est capital, pour lui-même qui s'en va, évidemment, mais surtout pour ceux qui restent. Donc c'est un très beau livre qui arrive à joindre deux choses qu'on pourrait prendre sur le papier comme inconciliable. D'abord, la forme du mélo, parce que comme beaucoup, mais je sais que ce n'est pas votre cas, en plus vous ne l'avez pas vu, j'ai pensé, non pas à Sixième Sens, dont on parlera, hein, qui est cité dans le livre, mais à un autre film hollywoodien qui s'appelait Ghost, dont je ne me rappelle que d'une image, c'est Patrick Swayze qui revient en fantôme et qui voit sa femme, et il ne peut pas, voilà, il n'est plus là, et il voit les autres. Et j'ai cru, en le lisant, que c'était un embryon de départ, or non. Mais c'est vrai qu'il y a cette figure-là qui tient du mélo. Et ça se mêle à quelque chose qui, en tant que lecteur, m'a beaucoup concerné, marqué. C'est un pan du travail de Georges Perec qu'il a appelé l'infraordinaire. C'est un petit texte mineur a priori, mais qui est assez majeur dans ce dont il traite, hein, par rapport aussi aux thématiques de nos festivals, à savoir que l'événement, justement, il parle de ça aussi, sont nos usages du monde, nos gestes quotidiens, la façon dont on tient notre petite cuillère. Et j'y repensais parce qu'à un moment dans le texte, je ne sais plus si vous l'avez lu, il est question de la cuillère à café rouge et de son plastique particulier, parce que ce que vous avez compris, c'est que lui est une présence fantomatique qui revient. Mais là, je vais en venir, après cette introduction, à une question. La structure du texte, et que là, vous nous avez lu dans l'ordre, elle est basée en 6 chapitres principaux qui concernent 6 sens, comme dans le film Sixième Sens. 6 sens, c'est bizarre.
En fait, il y a 5 sens.
Il y a 5 sens, mais il y a 6 chapitres. Ouais. Parce qu'il y en a un sixième, ouais, qui est le savoir. Ça pourrait être une autre question plus tard. 6 sens et qui sont en quelque sorte sublimés avant de disparaître. Tous intensifiés, d'où ce texte de très proche des sensations, mais au fur et à mesure qu'il les perd, en fait. Et perdant les choses, ce texte dit à quel point ces choses sont précieuses. Cette structure-là, est-ce qu'elle a été l'idée préalable ? Parce que vous êtes un écrivain joueur, enfin vous alternez beaucoup de formes, pas un écrivain formel au sens propre, mais vous aimez jouer en tout cas avec les formes de toute façon. Et à quel moment ça se situe du processus ? Comment tout ça se mêle ? Est-ce qu'il y a un désir d'écrire sur le quotidien, un désir d'écrire sur la disparition, une idée scénaristique, ou cette forme qui à quel moment arrive-t-elle dans le travail ?
Alors j'ai cherché, je me suis dit il y a le mélo hollywoodien d'un côté, il y a Georges Perec l'infraordinaire, je vais me mettre pile au milieu et je vais construire un livre là-dessus. Non, bien sûr. C'est toujours difficile de répondre à des questions sur le pourquoi, le comment, etc.
Alors, juste sur le comment.
Voilà, donc on va plus parler du comment. Le pourquoi, on peut juste l'évoquer en disant que voilà, je pense que pour écrire un texte comme ça, c'est parce qu'on en a besoin. Moi, j'en avais besoin. Et le comment, c'est... en fait, il n'y avait pas les 5 sens. Enfin, j'ai construit le livre avec l'idée qu'il y avait un prologue et qu'il y aurait une semaine, un mois, un an. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans le rite funéraire juif, ce sont ces 3 séquences-là qui sont célébrées. On fait un an après l'enterrement, un mois après l'enterrement, un an après l'enterrement des cérémonies. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort, cette construction du cycle. Donc à l'origine, il n'y avait que les 3 sens, et puis ça manquait justement qu'il n'y ait pas les 5 sens. Donc j'ai rajouté, donc c'est en effet dans un second temps que j'ai rajouté cette toute petite séquence du début qui sont donc une seconde et une heure, je crois, ou une minute, une heure plutôt, une minute et une heure, qui me permettent de rajouter ces deux autres sens qui sont du coup très très vite évacués, c'est-à-dire le goût et le toucher. Parce que moi, je voulais me concentrer sur l'ouïe, la vue et donc les odeurs, puisque c'est le premier, c'est la semaine. Ce que je te disais, je propose qu'on se tutoie, pardon. C'est plus simple. En fait, dans le livre que toi tu as lu, qui était le service de presse, c'est-à-dire les épreuves avant que le livre sorte en librairie, donc maintenant le livre est un peu différent parce que j'ai rajouté ce petit exergue, enfin poster, je ne sais pas comment on dit, enfin une toute petite phrase à la fin qui est donc une phrase d'une conférence de Borges où il évoque ce mystique suédois qui s'appelle Emmanuel Swedenborg, et donc il dit: nous imaginons toujours l'autre monde de façon assez floue, mais Swedenborg nous dit qu'au contraire les sensations y sont beaucoup plus intenses, il y a davantage de couleurs, davantage de formes, tout est plus concret, plus tangible qu'ici-bas, à tel point, nous dit-il, que ce monde-ci est comme une ombre, c'est comme si nous vivions dans l'ombre. Et donc, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, voilà, j'ai fait référence et hommage à cette idée de l'ombre et cette idée des sens démultipliés. Voilà, c'est un texte que j'avais lu il y a extrêmement longtemps, quand j'avais 16 ou 17 ans, qui m'avait beaucoup frappé. Là, quand j'ai travaillé sur ce livre, j'ai lu Swedenborg. Enfin, j'ai essayé de lire Swedenborg. Je trouve ça très difficile à lire. Voilà, pas du tout aussi intéressant que ce que Borges en fait. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de lire la conférence de Borges où il parle de Swedenborg. C'est vraiment passionnant. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait toujours travaillé. Et voilà, quand je me suis retrouvé dans cette situation d'écrire ce livre, d'avoir besoin d'écrire ce livre, je me suis dit que c'était quelque chose que j'avais envie de décrire, cette idée qu'en effet, on pouvait voir les choses avec plus d'intensité. Et bon, voilà, de façon assez évidente, ça met en métaphore beaucoup de choses sur ce que nous, on peut voir en étant encore là et essayer de voir les choses avec plus d'intensité, etc. Je ne me souviens plus du tout de la question. Pardon, quelle était la question ? La construction, quoi.
C'est comment ça s'est fait.
Voilà. J'ai répondu,
donc, réponds à comment ça s'est fait. Mais je vais redoubler ce comment ça s'est fait sur, par la suite, le travail de rédaction lui-même. C'est un texte qui est bref et ample. Paradoxal, hein, a priori, mais il y a quelque chose de l'ampleur des mouvements, bah, comme on l'entendait, je sais pas, sur la musique, un texte avec des vagues à l'intérieur de lui-même, alors que c'est un texte bref, qu'en plus on est appelé à lire assez vite, pas seulement par sa courteur, mais voilà, qui nous requiert. L'écriture, évidemment, littéralement, je me dis que ça s'est pas écrit si vite.
Eh bien si, figure-toi que j'ai en effet écrit assez vite. En général, j'ai écrit des livres assez longs, la plupart de mes livres sont longs, et nécessite un temps d'écriture et un temps de lecture plus long. Là, je l'ai écrit extrêmement vite. J'ai écrit en disons 3 semaines. Avant de l'écrire, j'y ai pensé. Voilà, pendant 2 ou 3 semaines, c'était très étonnant pour moi. Je pensais au livre et je n'arrêtais pas d'y penser en me disant voilà, ça va être comme ça. Et j'écrivais rien. Je me disais bon, mais je suis pas encore prêt. Et puis ça. Voilà, j'ai juste noté cette idée de séquencer en 5 ou 300. Je savais pas trop ça. Et puis quand je me suis mis à écrire, j'écrivais chaque. En fait, donc là dans ce qu'on a lu, beaucoup de séquences commencent par ce et puis qui permettent de dire que quelque chose avance, puisqu'en effet on va passer à peu près un an avec ces personnages. Et j'écrivais une séquence par jour, une séquence de et puis j'écrivais à peu près, donc je ne sais pas combien il y en a dans le livre, mais il doit y en avoir, puisque j'ai travaillé à peu près entre 3 et 4 semaines, il doit y avoir une trentaine. Et donc j'écrivais une séquence pendant à peu près 2 heures, et puis c'est tout, je faisais que ça de ma journée, parce que c'est vrai que ça mobilisait beaucoup d'énergie, d'intensité pour moi de faire ce moment-là d'écriture. Et donc voilà, après je l'ai relu, je l'ai fait lire à mon amoureuse qui est toujours ma première lectrice. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle pensait qu'il manquait les deux premiers sens, donc je les ai rajoutés. Enfin voilà, ça s'est fait extrêmement vite. Je l'ai envoyé à mon éditeur un jeudi soir fin juin. Le vendredi matin, il l'avait lu, il m'a dit on va le sortir en janvier. Tout ça s'est fait très vite. Et c'était bien. Moi, j'avais besoin aussi que ce texte sorte vite, que tout soit dans cette brutalité, peut-être, qui est la brutalité qui est aussi décrite dans cette histoire-là. Voilà.
Brutalité, mais aussi je parlais d'ampleur, mais il y a aussi des intensités, des nervures, c'est-à-dire que à l'intérieur de chaque sens exploré en lui-même précisément, c'est pas qu'il y ait différents registres de texte, mais quand même, il y a différentes logiques à l'œuvre dans ces longues phrases. C'est pas les mêmes longues phrases, elles sont pas du tout rectilignes, elles vont chercher dans différents registres. Et là, je fais appel à ce que je connais de ton travail d'il y a longtemps, c'est-à-dire une sorte de curiosité tous azimuts, enfin ton travail de revue, tout est intéressant, fait en partie parfois la BPI il y a bien longtemps de ça. Le monde est intéressant. C'est aussi un des partis pris de ce texte-là. Mais du coup, ça fait une spécificité d'écriture. C'est-à-dire que c'est peut-être écrit vite, c'est à la fois un jet, mais un jet avec de la complexité dedans.
En fait, c'est vrai que d'habitude, quand j'écris, justement, j'écris sur des sujets historiques ou factuels. Donc, je me documente énormément, je lis beaucoup et je réintroduis beaucoup de cette matière dans ce que j'écris. Et là, évidemment, le parti, c'était justement d'écrire vraiment le quotidien, quelque chose d'une incroyable banalité qui est la vie d'une famille absolument quelconque, voilà, à qui il n'était jamais arrivé rien de particulier, et qui est simplement là, brutalement frappé, donc change totalement de dimension, tout en continuant à avoir ce quotidien néanmoins banal. Donc en effet, c'était écrire sur le rien, sur l'infraordinaire, et en même temps, voilà, d'essayer de charger. Et ce qui était très particulier pour moi, c'est que je l'écrivais, j'allais dire en aveugle, c'est pas le terme, mais j'écrivais sans trop savoir si ça fonctionnait, et donc à un moment, quand j'étais à peu près au milieu de l'écriture du livre, je reprends tout le texte en disant, bon, est-ce que ça marche, le livre ? Est-ce que, voilà, quand on écrit, on se pose quand même la question de savoir si ça marche, quoi. Et là, je le reprends, je me dis, mais ça n'a absolument aucun intérêt, ce livre n'a aucun intérêt, puisqu'il ne se passe rien, c'est banal, c'est quelconque, et ça. Donc j'étais vraiment à me dire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai voulu écrire ça, il faut que je m'arrête, quoi. Et puis, je sentais quand même que j'étais pris par le texte et que j'avais quand même besoin d'aller au bout, donc je suis allé au bout, parce que, voilà... c'était pas possible, je pense, de ne pas y aller. Et c'est vrai que du coup, on en parlait avec Louise quand on préparait la lecture. Elle me disait ce qui est particulier, c'est que ce sont des phrases qui sont en effet qui n'apportent pas grand-chose dans un sens, mais qui sont chargées en fait en émotion. Et je pense que c'est ça, ce que j'ai cherché ou ce que j'ai réussi à faire, même sans peut-être même le chercher. Ce qui m'a plu moi dans cette écriture-là, qui est quand même assez différente de celle de mes livres traditionnels, c'est en effet une espèce de charge. Je ne sais pas comment le décrire, c'est très très dur à décrire, peut-être tu le feras mieux que moi.
Il y avait le mot éblouissement tout à l'heure, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est submergé par l'assaut des sensations, et nous-mêmes, à la lecture, on est, waouh, sans que ce soit roboratif et écœuré, comme je le disais, on est dans un mouvement, mais ce mouvement, il n'est pas qu'une vague, il est plein d'informations à l'échelle de littéralement.
Voilà, c'est ça, voilà. C'est à la fois saturé et en même temps il n'y a pas grand chose. Et bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, de maintenir cet équilibre là. Ce qui fait que du coup il y a très peu de choses que j'ai peut-être enlevé une ou deux choses. Si ce que j'ai vraiment changé, c'était la fin, le dernier chapitre qu'on n'a pas lu parce que c'est un chapitre d'ouverture justement. C'est donc pas ce sixième sens, mais c'est le savoir. C'est cette idée que à un moment Lucas ne voit même plus. Il a tout perdu sauf le savoir, l'information qu'il va recevoir. Et là, je m'étais lancé dans une espèce de récit de ce qui arrivait à ces trois personnages, c'est-à-dire sa femme et ses deux enfants, et donc dans une espèce de futur comme ça, hypothétique, que lui apprenait. Et tout. Et ça, ça ne marchait pas. Voilà. Donc c'était vraiment clair que ça ne marchait pas. Donc j'ai tout jeté assez tranquillement pour rester justement tout le temps dans cette idée qu'il y a ce qu'il perçoit. Et puis voilà, et après... Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur ces phrases longues, plus le temps passe, plus je vieillis, plus mes phrases sont longues, j'ai remarqué ça, plus je fais des livres avec des phrases interminables. Et là, en fait, j'avais ce plaisir à alterner les phrases très très longues avec des phrases très brèves, justement pour aussi, je pense, mettre en branle à la fois cette idée d'un temps comme ça absolument... je sais pas comment dire, écrasamment, non, c'est pas français, qui écrase quelque chose dans le deuil, en fait, dans la ligne du deuil où on ne peut qu'avancer un peu dans un effondrement. Et en même temps, cette idée qu'il y a une violence, il y a une brutalité qui je pense, est marquée par ces phrases courtes qui coupent quelque chose de ces phrases longues. Et en effet, je me suis rendu compte, il n'y a pas de phrases moyennes dans ce livre. Elles font soit une demi-ligne, soit une trentaine de lignes. Il n'y a pas de phrase qui ferait 4 ou 5 lignes, une phrase standard, quoi.
Et il y a quelque chose de... Alors que je vais essayer de dire simplement que je trouve assez beau dans non pas l'ambiguïté, mais la façon dont le texte entre subjectivité et objectivité est indéterminé à un endroit. Ça a été, quand il a été question de Bakou tout à l'heure, c'est un moment d'imagination potentielle en partant d'une observation presque objectiviste. C'est-à-dire en regardant les choses de très très près, ça peut devenir tellement fou que l'imagination est possible. Et le texte, il fonctionne entre ces deux pôles d'une manière... paradoxal et assez original pour le coup, parce que on a aussi une idée de départ qui pourrait être celle d'un film hollywoodien, pour le coup, comme je sais pas, comme l'idée d'un jour sans fin, par exemple, une bonne idée, une idée exploitable, mais qui permet une observation hyper intensifiée du réel. ces postes d'observation fictionnels où il voit ses proches depuis après la mort, ça permet de faire dans l'émotion un texte qui pourrait être un dispositif expérimental s'il était chez Minuit et qu'il faisait 600 pages et que j'ai oublié le nom de cet auteur qui faisait ça sur des quartiers parisiens. Mais un texte objectiviste, c'est-à-dire regarder le tout au plus près. Et sauf que, comme tu l'as dit, puisqu'il y a une émotion et une question fondamentale et essentielle qui régit ça, ça c'est obligé d'être bref aussi. Enfin voilà, il est en permanence dans ces deux polarités-là.
Ouais, je pense qu'en effet, ça renvoie à l'état dans lequel j'étais quand je l'écris, c'est-à-dire à la fois en effet dans un état d'émotion intense et en même temps avec mes habitudes d'écrivain. J'allais dire classique, parce que justement, encore une fois, d'habitude, mes livres sont sans doute un peu moins chargés, même si voilà, la question de l'émotion, c'est quelque chose que je peux pratiquer. Et donc, je pense qu'en effet, il y a cette espèce de double duopole quoi, qui s'est développé dans cette écriture, qui fait ce livre, je pense, un peu particulier. C'est-à-dire qu'en effet, il y a très peu de temps, le livre était présenté dans un podcast où il y avait Blandine, et donc il y avait un journaliste littéraire qui disait « Ah, mais moi, j'ai lu les premiers livres de Raphaël Metz », donc c'était il y a longtemps, hein, c'était presque 20 ans, c'était un peu trop cérébral. Et c'est vrai que je pense que je suis, on va dire, issu du champ de l'écriture du cérébral. Et c'est quelque chose que j'aime comme lecteur et que j'ai toujours aimé pratiquer comme auteur. Et là, c'est vrai que manifestement, il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en marche aussi dans ce texte-là. Ce qui fait que j'ai noté aussi que les retours que je reçois des lecteurs, c'est pas les mêmes lecteurs que sur mes autres livres. Donc je pense qu'en effet, il y a cette conjonction, mais comme tu le dis, c'est-à-dire qu'en effet, il pourrait y avoir il y a dans ma tête et dans mes habitudes d'écrivain le côté très formaliste ou dans la réflexion
conceptuel,
de comment construire un objet un peu étonnant qui ressemble pas à un livre classique, pas à un mélo justement traditionnel, et en même temps lâcher quelque chose que ça soit pas trop étouffant cette contrainte formelle. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec ce livre. J'ai aussi découvert à cette occasion-là que parfois on ne maîtrise pas exactement son écriture. C'est-à-dire qu'en fait, les choses arrivent. Et, en tout cas, pour moi, là, je devais accepter que c'était comme ça et que ce n'était pas autrement. Et ça a donné cet objet-là, qui a cette particularité-là, dont je ne suis pas certain que... Enfin, dont même je pourrais dire que je suis certain que je ne pourrais pas le reproduire à l'identique. Et ce n'est pas le projet, parce qu'en général, moi, je n'aime pas écrire deux fois le même livre. Donc, je n'ai pas envie de refaire le même. Mais je veux dire, voilà, c'est, ça donne ce livre qui est très particulier, qui ne ressemble pas à mes livres précédents et sans doute pas à mes livres suivants.
Qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres livres.
Voilà.
Et dont nous te remercions. J'avais dit 20 minutes d'entretien, ce qui laisse le temps à une ou deux questions du public aussi. Peut-être que vous en avez et qu'il y ait des questions. Ce n'est pas obligé d'être des questions. Ça peut être une simple déclaration. Vous l'avez lu ou pas lu ou... D'ailleurs aussi, puisque cet entretien était court, si quelque chose vous a pas semblé clair, en même temps, la lecture, elle éclairait beaucoup de choses, je pense. N'hésitez pas, vous n'y êtes pas requis non plus. Il y a une séance de dédicace pour rencontrer l'auteur en direct. Et par ailleurs, il y a le festival qui continue de se poursuivre à 19h30 avec une lecture musicale d'après Nicolas Mathieu, mais je n'ai pas tout le générique en tête, vous m'excuserez. Et merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Louise.
Merci
de votre attention. C'est bien.